Donc, eh bien, nous allons passer la parole à... Un petit peu de silence, nous allons passer la parole donc à André Pertusio pour nous donner de l'énergie, parce qu'on en a besoin de l'énergie.
Et je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, mes amis, si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est d'abord pour le plaisir de votre compagnie, mais aussi pour vous parler de l'énergie dans le monde. Alors, pourquoi l'énergie dans le monde ? C'est parce que la vie ne peut avoir lieu sans énergie. Il n'y a pas de vie sans énergie. Et Aristote avait déjà compris cet état de choses lorsqu'il a déclaré, et enfin il n'a pas déclaré, puisqu'il a inventé le mot energeia, c'est-à-dire le travail en action. Et cette énergie, comme l'a rappelé M. de Poncin tout à l'heure, a été essentiellement le muscle de l'homme, celui de certains animaux, le feu de bois pour se chauffer ou pour s'alimenter, l'eau à certains égards et le vent. Et ce sont les seules énergies, il faut le rappeler, dont l'homme a disposé pendant des millénaires et qui ont permis de brillantes civilisations de se développer, de magnifiques monuments de se créer, et ne serait-ce que par exemple nos cathédrales. Car à l'époque, on n'avait aucune autre source d'énergie, il faut bien le dire. Et puis, il y a eu l'accélération assez extraordinaire, non seulement dans le monde des idées, dans le monde de la création, à partir de la Renaissance, pas notamment, et dans le monde scientifique et industriel, à partir de l'utilisation du charbon. Ce qui a permis, par exemple, de dire en 1900 à André Siegfried, l'Angleterre est en bloc de charbon, c'est pourquoi elle domine le monde. Et en effet, le charbon a été l'occasion de la première révolution industrielle, et les pays possesseurs de charbon, comme l'Angleterre d'abord, l'Allemagne également, ont été des pays industriellement puissants et ont donc été des pays dominateurs à cette époque. À la suite du charbon, on a trouvé du pétrole en 1856, en juillet 1856, le colonel Drake a trouvé du pétrole à Titusville en Pennsylvanie et l'ère du pétrole a commencé. Et je m'empresse de dire que cette ère du pétrole est loin d'être terminée. Nous vivons aujourd'hui avec des énergies fossiles essentiellement, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz naturel qui, à eux trois, représentent 88% de l'énergie consommée dans le monde. Les 12% restants étant constitués à peu près par moitié en électricité primaire qui se divise en hydraulique et nucléaire. Alors, il va évidemment falloir parler chiffres. C'est toujours très ennuyeux, mais il faut quand même le faire. Le monde consomme à l'heure actuelle 11 milliards de tonnes par an de matière énergétique. Ou plus exactement, 11 milliards de TEP. Qu'est-ce que c'est qu'une TEP ? C'est une tonne équivalent pétrole. En d'autres termes, une tonne de pétrole est l'étalon et 1,6 pour le charbon. Par exemple, une tonne de pétrole représente 1,6 tonnes de charbon, en moyenne. Représente 1100 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 12 000 kilowattheures. Voilà à peu près les équivalences. Je m'empresse de vous dire que les chiffres en matière pétrolière sont toujours imprécis. Il faut les prendre comme valeur de référence, mais pas au pied de la lettre, si j'ose ainsi m'exprimer. Parce que tout dépend de beaucoup de manières de calcul. Par exemple, si vous calculez en barils jour ou en pétrole an, les Américains calculent en barils jour, et les Européens en pétrole an. Les pétroliers, d'une manière générale, font l'équivalent suivant. Un baril jour égale 50 tonnes an. Alors, il faut avoir ça en mémoire. Un baril jour égale 100 tonnes an. Bien. De même que les équivalences que j'ai dit tout à l'heure pour le TEP. De la même manière, un pied cube jour, qui est la manière américaine de calculer, c'est une tonne an dans la manière européenne. En plus, tout dépend selon que vous calculez des parchants ou que vous calculez à partir, n'a pas des connaissements en matière, n'a pas d'exportation de pétrole, ou de départ, n'a pas de tuyaux. Tout dépend pour la consommation, si vous prenez les éléments douaniers ou d'autres éléments techniques, et tout dépend également des calculs des compagnies pétrolières, dont certains sont quelquefois orientés, comme ceux de Shell, qui avaient un peu augmenté le nombre, n'a pas de ses réserves, pour des raisons boursières. Alors. Par conséquent, tout cela pour vous donner une idée. Quand je dis 11 milliards de tonnes, c'est peut-être 11 milliards 250 000, c'est peut-être 10 milliards 897 000. Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire. De ces 11 milliards de tonnes, 38% sont constitués par du pétrole, 25% environ par du gaz naturel, 26% par du charbon, en tout je dis 88, et 12% par du nucléaire et de l'hydraulique pour faire de l'électricité primaire. Je dis électricité primaire parce que l'électricité, la fée électricité, est ce qu'il y a d'important, le plus important au monde à l'heure actuelle en matière d'énergie, mais l'électricité, il faut la faire, il faut la produire. Et on la faisait jusque-là avec du charbon, et on continue d'ailleurs, en Chine notamment, on l'a fait avec des hydrocarbures, avec du pétrole et aussi avec du gaz naturel. Je dis tout de suite en passant qu'en France, on ne fait plus l'électricité qu'avec du nucléaire à 78% et le reste avec du gaz naturel. On n'utilise plus de charbon ni de pétrole pour faire de l'électricité, ce qui a permis à la France de réduire sa facture pétrolière de manière considérable, puisque de 119 millions de tonnes par an, on n'en consomme plus aujourd'hui que 92 millions, alors que les besoins énergétiques ont augmenté, n'est pas entre-temps. Bien. Alors voilà donc le tableau mondial. Comment se répartit cette énergie dans le monde? Cela, c'est très important aussi. Eh bien, 24% de cette énergie est consommée par les seuls États-Unis, 16% par la Chine et 8% par la Russie, qui sont les trois pays les plus grands consommateurs d'énergie. Ce qui veut dire que ces trois pays consomment 48% de l'énergie que l'on consomme dans le monde. Le quatrième et cinquième utilisateurs sont respectivement le Japon et l'Inde. Ce qui fait qu'ensemble, ils consomment 57% de l'énergie produite dans le monde, c'est-à-dire 5 puissances. En Europe, le pays qui consomme le plus d'énergie, c'est l'Allemagne, qui consomme 328 millions de tonnes. La France en consomme 263-265 et le Royaume-Uni environ 230. Voilà donc les trois grandes puissances européennes qui consomment le plus d'énergie. Alors vous pouvez aisément faire la relation, n'est pas en pourcentage, avec ce qui est consommé dans le monde. Bien. Par conséquent, nous allons voir maintenant le charbon. Alors le charbon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, car le charbon est une matière pondéreuse qui circule peu. Par conséquent, il est utilisé dans les pays qui en produisent. Et essentiellement les États-Unis, la Chine et la Russie parmi les grands producteurs. Les réserves de charbon sont extrêmement importantes. Elles sont au minimum de 900 milliards de tonnes, peut-être même un petit peu plus dans le monde. Elles sont considérables et au rythme actuel d'utilisation, il y en a à peu près pour 170 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Bon. Voilà ce qui concerne le charbon. Mais le charbon circule peu. En revanche, le pétrole, lui, circule beaucoup. Et le pétrole est très important parce que c'est une énergie polyvalente. Avec le pétrole, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la pétrochimie, on peut faire marcher les automobiles et les avions, on peut l'utiliser pour le chauffage industriel, pour le chauffage... On peut l'utiliser aussi pour faire de l'électricité. Et ça, c'est très important. Et en plus, le pétrole est facile à produire. Son extraction ne coûte pas cher. Elle coûte dans les pays producteurs du Moyen-Orient entre vers 2 dollars le baril. En Russie, entre 5 et 6 dollars. En mer du Nord, ça va jusqu'à 20 dollars, 18 dollars. En d'autres termes, il n'est pas cher à produire. Et il n'est pas cher non plus à transporter. Par conséquent, c'est vraiment l'énergie idéale. Et étant donné que ces réserves sont de 180 milliards de tonnes à l'heure actuelle, environ, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être 179 ou peut-être 185, n'est-ce pas, mais permettons 180. Mais il faut dire que les journalistes écrivent qu'il y a pour 44 ans de consommation pétrolière, ça me fait penser au Club de Rome qui en 1972 disait qu'en 1992 on n'aurait plus de pétrole parce qu'il y en avait pour 20 ans. Et c'était le très sérieux Club de Rome qui le disait. En 1980 on était déjà passé à 30 ans, aujourd'hui on est à 44, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de forages dans le monde, pas qui se perdent, pas tous les ans, surtout aux États-Unis. Parce que la productivité des puits étant très faible, il y a énormément de puits et en fort, n'a pas énormément. Bon, la productivité des puits américains a une moyenne de 15 barils par jour. Alors, ce sont des vieux puits pour la plupart, il y en a donc beaucoup. Et la productivité des puits irakiens est de 10 à 20 000 barils par jour. Vous voyez tout de suite la différence et donc la différence de coût, bien évidemment. Bien. Cela dit, passons au gaz naturel. Le gaz naturel est aussi un hydrocarbure qui autrefois était une malédiction pour les pétroliers. Il était une malédiction pour les pétroliers parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et l'on disait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé quelque chose, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est du gaz naturel. Parce qu'on le brûlait à la torche à la sortie du séparateur. Et c'était bien dommage, car aujourd'hui, n'est pas bien entendu, on l'utilise. Seulement, le gaz naturel a un gros défaut par rapport au pétrole, c'est qu'il est difficile à transporter. Alors, on peut le transporter, bien sûr, par un tuyau, lorsque l'on est à terre. Encore faut-il que ce tuyau ait beaucoup plus de stations de compression que le pétrole, parce que le pétrole coule et que le gaz, lui, ne coule pas. Il faut donc le pousser, hein. Donc ça coûte un peu plus cher. Mais surtout, pour le transporter outre-mer, il faut d'abord le liquéfier. Et ça coûte très cher. Il faut des usines de liquéfaction qui n'ont pas toujours fonctionné, car la première, qui vers 1950 et quelques, a été essayée par Esso, qui est maintenant Exxon en Libye, et il lui a fallu 10 ans pour arriver à fonctionner correctement. Bon, maintenant on sait très bien faire ça, il y a des usines de liquéfaction un peu partout, et ce que l'on appelle le GNL, c'est d'ailleurs le gaz naturel liquéfié, prend de plus en plus de marchés, et notamment l'Extrême-Orient. Je prends un exemple, le Japon, qui lui n'a aucune énergie, il ne dispose d'aucune énergie. Donc 97% des exportations d'extrêmement de gaz liquéfié sont le fait, n'est pas, du Japon et des pays d'Extrême-Orient. Et à ce sujet, une petite anecdote. Le 15 août 1941, le président Roosevelt a déclaré l'embargo de pétrole à destination du Japon. Et Winston Churchill a immédiatement dit, ça signifie que le Japon n'a plus une autre issue que de faire la guerre. Et si Roosevelt a décidé cet embargo, c'était précisément pour que le Japon lui fasse la guerre. Et de telle manière pouvoir entrer en guerre. D'ailleurs, son secrétaire à la défense, Harold Ickes, exprimait en termes choisis, en disant qu'il n'est peut-être pas impossible que le Japon se décide à entreprendre des hostilités à notre égard, ou quelque chose comme cela. Alors qu'en réalité, il savait très bien de quoi il retournait. Mais cela, pour signifier l'importance de l'énergie, l'importance du pétrole dans la vie des hommes. Le Japon ne peut pas vivre sans énergie importée, ce qui est sa grosse faiblesse d'ailleurs. Bien. Revenons donc à nos moutons et parlons des réserves de gaz naturel. Elles sont évaluées à l'heure actuelle à 180 trillions de mètres cubes, ce qui fait 160 milliards de TEP, d'ailleurs, comme vous le disiez, de tonnes équivalent de pétrole. Bien. Elles sont très importantes et elles aussi évaluées à je ne sais combien, pas d'années. Il y en aura bien entendu de plus en plus qui seront mises au jour au fur et à mesure que l'exploration se poursuivra. Cela dit, il faut quand même relever que l'exploration pétrolière est plus difficile aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les pays de pétrole facile, entre guillemets, si j'ose dire, eh bien on y a déjà trouvé du pétrole. Et maintenant, cela coûte plus cher. Il y a des moyens de détection géophysique qui sont bien plus perfectionnés qu'auparavant, à telle enseigne que l'on trouve à peu près, je pense, que la relation est de 30% sur un puits foré par rapport à ne pas une découverte. Alors qu'auparavant, c'était 10%. Il y a 30 ans, c'était 10% à peu près. Bon. Donc on ne trouve pas du pétrole à tous les coups. Et ceci m'amène à vous parler de l'industrie pétrolière qui a des caractéristiques tout à fait spécial. C'est une industrie, d'abord, qui est aléatoire. Elle est aléatoire, d'abord, parce qu'on ne sait pas si on va vraiment ne pas trouver quelque chose. Elle est également aléatoire dans les calculs qui sont faits. Car lorsque l'on trouve du pétrole ou du gaz naturel, il faut déclarer au pays la commercialité de ce pétrole. Donc, l'expression découverte commerciale qui est employée. C'est-à-dire du pétrole ou du gaz qui peut être exploité économiquement. Cela veut dire qu'après avoir trouvé qu'un puits trouve du pétrole, il faut faire des puits d'avancée pour essayer de cerner pas le gisement. Qu'ensuite les ingénieurs déterminent quelle peut être la quantité de réserve de ce gisement, étalée dans le temps, étant donné que vous avez un problème de conservation des hydrocarbures qui fait que l'on ne peut pas tirer à mort, mais pas sur les champs pétroliers, sinon au bout de 3 ans, il n'y en a plus. Bon, il faut donc étaler, c'est généralement sur 20 ou 25 ans, mais pas que ça se produise, tout cela dépend des champs. Bien. Seulement là, nous sommes dans un univers incertain. Parce que l'exploitation du pétrole obéit nécessairement au prix du pétrole. Or, le prix du pétrole, personne ne peut savoir ce qu'il sera lorsque l'on a fini de développer le gisement. Car entre le moment où l'on signe un contrat avec un pays donné et le moment où le champ est mis en exploitation, il s'écoule au minimum 8 ans, sinon 10. Par conséquent, nous opérons un univers incertain. Une autre caractéristique de l'industrie, c'est qu'elle est très sophistiquée techniquement et que tout cela coûte très très cher. Les investissements sont donc énormes. Tout cela n'est pas pour bien fixer les idées. Au niveau de l'énergie en général, l'Agence internationale pour l'énergie a chiffré à 22 trillions de dollars les investissements à réaliser dans les 25 ans à venir pour faire face à la consommation prévue. Et 62% de cette somme est prévue pour les infrastructures électriques. Sans compter que la part des investissements dévolus respectivement au pétrole et au gaz naturel ont aussi pour objet de faire dans une certaine mesure de la production d'électricité. Donc vous voyez l'importance, n'est pas de la fée électricité, comme disait Dufy, n'est pas dans le monde. Voilà les investissements pas, qui sont prévus, et vous voyez tout de suite que vous avez le binôme investissement-géologie qui préfigure la limite possible des découvertes pétrolières et de leur exploitation. Monsieur Christophe de Margerie, qui va être le nouveau président de Total et qui en était le directeur général, a exprimé son point de vue en disant que vers à l'horizon 2030, on pourrait difficilement dépasser 100 millions de barils jour de production. Cette production qui est aujourd'hui d'environ 42 millions de baril. Vous multipliez par 50 pour l'avoir, n'est pas en tonnes. Par conséquent, 100 millions de barils jour, si vous multipliez, ça fait 5 milliards de tonnes. Aujourd'hui, c'est que nous en sommes à 4 milliards 200 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin, si vous voulez, encore de la limite. Enfin, limite prévue. Parce que vous avez également d'autres considérations qui sont celles des pétroles non conventionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un pétrole non conventionnel ? C'est un pétrole extra-lourd. C'est-à-dire que l'on ne peut pas produire par les méthodes normales. C'est-à-dire des pétroles qui sont dans la rangée des 10 degrés API. Alors là, c'est le contraire des densités. En d'autres termes, les API diminuent lorsque la densité n'a pas du produit augmente. Alors il est évident que quand vous avez un pétrole qui est à peu près dur comme cette table, on ne peut pas l'exploiter par les modes habituels. Les trois grandes sources de pétrole non conventionnel ont été répertoriées, suivant l'Agence internationale pour l'énergie, comme l'équivalent de 1 trillion de tonnes en place. Je dis bien en place, ça ne veut pas dire récupérable. Se répartissant par tiers à peu près entre les sables asphaltiques du Canada, les pétroles extra-lourds du Venezuela et les schistes bitumineux du Colorado ou de l'Australie. Et il y en a aussi en Russie. Pour les schistes bitumineux, c'est-à-dire plus de 300 milliards de tonnes en place, on ne sait pas encore très bien comment exploiter économiquement. Pour les sables asphaltiques du Canada, ils entrent pour une notable part dans la production normale d'un pas de pétrole canadien. Et leur taux de récupération est pour l'instant assez important. En revanche, les pétroles extra-lourds du Venezuela, le taux de récupération est de 10, pouvant monter, n'est pas à 25%. Et l'un dans l'autre, on a calculé que les pétroles non conventionnels représentent 15% du montant total, de la quantité totale des réserves évaluées aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, à 180 milliards de tonnes. On peut penser qu'à l'horizon 2030, les réserves de pétrole conventionnel représenteront 100 milliards de tonnes. Alors, est-ce que M. de Margerie, et je l'ai écrit dans un des articles que j'ai écrit à cet effet, a calculé les pétroles non conventionnels ou pas, lorsqu'il a exprimé sa limite de 100 millions de barils jour, je ne sais pas. L'avenir ne pas nous le dira. Cela dit, quelle est, par exemple, la position énergétique de la France à cet égard? La France est un pays qui offre, par rapport à ses voisins européens, elle représente une exception, car elle produit 78% de son électricité par le nucléaire, ce qui est tout à fait remarquable. Alors que la France a 59 réacteurs d'une puissance installée de 63 000 mégawatts, dans le monde, les puissances installées totales de 350 000 mégawatts, ce qui montre l'importance de la puissance installée des réacteurs français. Il y en a 440 dans le monde, en France il y en a 59. Bien. Cette énergie nucléaire représente un pourcentage donc très élevé d'électricité en France, le pourcentage le plus élevé du monde, et nous sommes suivis par la Lituanie et la Slovaquie. Parce que ces deux pays, étant des pays autrefois des pays soviétiques comme la Lituanie ou sous contrôle soviétique comme la Slovaquie, ont bénéficié d'installations nucléaires, alors que des pays comme l'Estonie ou la Lettonie n'en ont pas. Les spécialistes en énergie sont tous unanimes à penser que l'énergie nucléaire a un très bel avenir devant elle. Car, d'une part, le pétrole va devenir plus cher à produire, les investissements vont être très très lourds, et le prix du pétrole est imprévisible, car il obéit à de trop nombreux paramètres et qu'il est sujet à beaucoup de spéculations. Sans parler de spéculations boursières et autres en matière de matières premières, je vous dirai simplement qu'entre le moment où sur le marché libre un baril de pétrole quitte l'Arabie Saoudite par exemple pour aller quelque part, il change 8 fois de main en chemin. parce que les courtiers en pétrole ont sur leur ordinateur les demandes des raffineries et ils achètent leur une cargaison qui ensuite n'est pas rachetée par un autre et ainsi de suite. Donc le prix du pétrole, pour des foules de raisons, et les meilleurs experts, dont M. Nicolas Sarkis, vous diront qu'il n'est pas possible de prévoir l'évolution des prix du pétrole. Il était, comme vous le savez, à $150 le baril l'année dernière. Il est retombé à $50 aujourd'hui. Alors il ne faut pas qu'il soit trop bas, parce que s'il est trop bas, les compagnies pétrolières ne peuvent plus investir. Alors il faut investir énormément, comme vous le savez. D'autre part, les pays producteurs, eux, ont des vues qui ne sont pas uniquement pétrolières. Elles produisent du pétrole et le vendent dans la mesure où elles en ont besoin. Il est évident. Et l'OPEP, à cet égard, est un régulateur et qui est quand même très important. L'OPEP a commandé le marché depuis 1973 jusqu'à, disons, 1993, pendant 20 ans. Maintenant, les États ont repris la main en matière de définition de la politique énergétique et le marché a repris la main en matière de fixation de prix. Alors, je crois qu'il est bon, pour avoir une vue d'ensemble, de repartir un petit peu en arrière et de voir ce qu'a été l'industrie pétrolière et les industries énergétiques dans leur évolution. Aux États-Unis, car il faut le préciser que l'industrie pétrolière est essentiellement américaine, que les termes et les mesures employées et les types de contrats employés sont de type américain. Et elles le sont restées, pas dans le monde entier. Les seuls contrats en français que j'ai vus dans toute ma carrière sont ceux qui ont été faits entre la France et ses anciennes possessions africaines ou indochinoises. Alors que tous les contrats pétroliers sont faits en anglais. Les mesures des oléoducs et des gazoducs se font également en pouces. Elles ne se font pas en mètres ni en centimètres, etc. Bien. Cette industrie a été entre les mains des grands pétroliers, c'est-à-dire la Standard Oil de Rockefeller et la Shell Royal Dutch de Henry de Turding et l'Anglo-Persian de John Darcy, c'est-à-dire la BP d'aujourd'hui, jusque vers les années 1920. Et en 1928, il s'est passé une chose très importante dans l'industrie pétrolière, qui sont les accords d'Achnacarry. Achnacarry était le château écossais qui appartenait à Sir Henry de Turding, où les majors américains ont constitué un cartel qui a dominé l'industrie pétrolière mondiale, ainsi que les prix, car c'est eux qui déterminaient les prix que l'on appelait posted price, c'est-à-dire les prix affichés, jusqu'en 1973. D'ailleurs, le moment où l'OPEP a repris la main à l'occasion de la guerre, mais pas des 6 jours, du 6 octobre 1973, ce qui a permis à l'organisation arabe des pays exportateurs de pétrole, arabe, pas l'OPEP, l'OPAEP, d'augmenter de 70% d'un seul coup les prix du pétrole, les prix affichés, et de les reprendre à son compte, de décréter un embargo sur le pétrole à destination des États-Unis et de certains autres pays, ce en quoi l'OPEP a elle-même renchéri, n'a pas assez pris, et en un mois, le pétrole est passé de $2 à $10 le baril. C'était le choc pétrolier par excellence. Un second choc pétrolier a eu lieu, comme vous le savez, avec la révolution iranienne, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'en 1982, le pétrole chutait de $30 à je ne sais plus combien, peut-être de moitié, oui, de moitié à peu près, ce qui a entraîné la ruine pétrolière du Venezuela, par exemple, puisque le ministre pétrolier vénézuélien du pétrole, que je connaissais, me disait en 1981, etc., je vais calculer mon budget sur la base de $40 le baril, parce que ça va monter. Bon, en réalité, en 1983, il est retombé brusquement, et bien entendu, lorsqu'un budget du pays est fixé d'une certaine façon, il est très difficile ensuite n'a pas de le diminuer. Ce qui a expliqué les difficultés économiques du Venezuela, entre autres. Bien. Je vais passer maintenant aux problèmes géostratégiques posés par l'énergie et par le pétrole. Comme vous le savez, les trois grands pays producteurs, consommateurs sont les États-Unis, la Chine et la Russie. De ces trois pays, deux pays importent une part substantielle de leur consommation de pétrole. Les États-Unis qui importent 60%, car ils consomment 1 milliard de tonnes de pétrole par an, dont 600 millions, c'est-à-dire exactement la quantité qu'ils importent, pour la circulation automobile et aérienne. La Chine, 50%, ou 55% même aujourd'hui, de sa consommation. En revanche, la Russie est non seulement autosuffisante, mais elle est exportatrice de pétrole et surtout de gaz naturel. Or, dans la géostratégie américaine, notamment, l'une des priorités est le contrôle non seulement des aires de production, si c'est possible, mais surtout des voies d'acheminement, en d'autres termes, d'avoir la main sur le robinet. Bien, ce qui explique la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis de la Russie dans une certaine manière. Cela en dehors, bien entendu, de l'OTAN, mais nous n'allons pas aujourd'hui parler n'importe quelle question d'ordre politique, mais énergétique. Et cela entraîne des problèmes dont je vais vous donner seulement deux échantillons, parce que sinon le temps passerait trop vite. Le premier, ce sont les oléoducs qui évacuent le pétrole d'Asie centrale. Et le second, ce sont les gazoducs qui évacuent le gaz naturel russe vers l'Europe occidentale. En ce qui concerne l'Asie centrale, l'Asie centrale est composée de pays producteurs, dont le Kazakhstan surtout, qui sont enclavés. Par conséquent, il faut que des oléoducs emmènent ce pétrole vers des mers libres. Et bien entendu, du temps de l'Union soviétique, tous les oléoducs étaient orientés sud-nord pour évacuer, ne pas les brutes, vers la Russie, vers l'Union soviétique, qui, elle, exportait, ne pas à son tour. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est tout à fait différent. Les oléoducs vont être orientés à l'est, au sud et à l'ouest pour évacuer les brutes du Kazakhstan, notamment. Je dis le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Alors, qu'est-ce qui se passait jusqu'à une époque toute récente ? Eh bien, à savoir que c'était le CPC, qui était un oléoduc, qui prenait le brut de Tengiz, qui est un champ... le champ très productif du Kazakhstan, vers la Russie, vers le port de Novorossiysk en mer Noire. Et puis, les Américains ont fait pression sur les sociétés américaines, sur Chevron notamment, et notamment sur le consortium dont Chevron fait partie, et dont l'opérateur est le Britannique BP, pour construire ce qu'on appelle le BTC, c'est-à-dire le Bakut-Tbilissi-Tsehran, qui est un oléoduc qui évite la Russie et qui passe par la Géorgie, la Turquie, pour déboucher sur la Méditerranée au port de Ceyhan. Cet oléoduc, qui n'était pas à première vue très rentable, était financé en grande partie par la Banque mondiale et il est prévu pour 600 000 barils jour, qui sera bientôt porté à 1 million, etc. Or, le Kazakhstan est un producteur de pétrole important, qui, avec l'Azerbaïdjan, produit environ 1 600 000 barils jour, c'est-à-dire une production extrêmement importante. Mais le champ numéro 1 sur lequel tout le monde compte, c'est celui de Kashagan, qui est un champ offshore qui se trouve en Caspienne, et dont la mise en production est prévue pour 2010 ou 2011. Et les Chinois ont demandé au Kazakhstan de faire un oléoduc qui va conduire ce brut vers la Chine. Ce qui veut dire que vous allez avoir plusieurs parties prenantes, non pas pour ces bruts, de l'Azerbaïdjan et surtout du Kazakhstan, de telle manière qu'il n'est pas certain que les productions vont suffire pour remplir, non pas tous les oléoducs. Alors, un oléoduc doit fonctionner de manière rentable. Alors voilà un des grands problèmes, non pas, qui se pose et qui existe en raison des problèmes géostratégiques et politiques que pose précisément n'a pas ces brutes pour des grands pays industriels comme la Russie dans un sens, les États-Unis n'est pas dans l'autre. Voilà l'un des exemples que je voulais vous dire. Le second, et qui est très intéressant aussi, c'est le pétrole, le gaz naturel russe de Gazprom qui alimente l'Europe à raison d'environ 30% de sa consommation gazière. Comme vous le savez, il y a un grand gazoduc qui traverse la Biélorussie et la Pologne, il y en a d'autres secondaires, qui alimente, n'est pas toute l'Europe occidentale. Et les Russes, qui sont très actifs en cette manière, puisque Poutine, dans Gazprom, a trouvé un levier d'ordre politique, pour asseoir la puissance géopolitique, de la Russie, dans le monde, et notamment en Europe, a conclu un accord, Gazprom a conclu un accord avec les sociétés allemandes, E.ON, Ruhrgaz, notamment, pour construire un gazoduc sous la Baltique qui s'appelle Nord Stream, qui va alimenter directement l'Europe occidentale en gaz naturel russe. Ce gazoduc est actuellement en construction et il devrait entrer en service dans 2 ou 3 ans. Bien. Et puis, Gazprom a également un autre projet qui est en cours de réalisation, qui s'appelle South Stream, qui consiste à construire un gazoduc sous la mer pour traverser la mer Noire, et ensuite, à partir de la Bulgarie, construire un gazoduc dont une branche va vers l'Autriche et l'Allemagne, et l'autre branche vers l'Italie. Ce South Stream est construit en association avec l'italien Eni, l'Ente Nazionale Idrocarburi, qui est la grande compagnie italienne. Alors, devant cette sorte de mainmise, en quelque sorte, de Gazprom sur le gaz naturel en Europe, de bons esprits se sont émus, et notamment l'Union européenne, en oubliant que l'Union soviétique alimente l'Europe occidentale depuis 1970 en gaz naturel, sans qu'il y ait jamais eu de rupture dans les approvisionnements. Alors là, on a pris comme prétexte la friction entre l'Ukraine et la Russie, alors que les Ukrainiens ont tout simplement détourné une partie de la production qui était destinée aux acheteurs, mais pas d'Europe occidentale, parce que les Russes leur avaient coupé le robinet. Parce que c'est aussi simple que ça, il ne s'agit pas du tout de manœuvres russes, mais pas vis-à-vis des pays d'Europe occidentale. Mais enfin, ça, c'était le prétexte, et l'objectif est se débarrasser de la dépendance à l'égard des Russes. Et alors, l'Union européenne et Washington ont conçu le projet Nabucco. Alors, le projet Nabucco, c'est un projet très important, puisque c'est un gazoduc de 3000 km qui va de l'Europe occidentale jusqu'à Bakou, c'est-à-dire en Azerbaïdjan. Et d'un coût très important, je crois 6 milliards d'euros, 6 milliards et demi d'euros, et qui doit transporter 31 milliards de mètres cubes, n'a pas par an, vers l'Europe occidentale. Le seul ennui, c'est que ce n'est pas un gazoduc conçu et construit par un producteur pour évacuer sa production, mais par des compagnies commerciales acheteuses d'un certain nombre de pays qui ont été mises en place par les autorités européennes, mais sans savoir comment on allait alimenter ce gazoduc. Alors, le secrétaire d'État américain Freed a parlé de l'Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan produit au maximum 7 milliards de mètres cubes par an, alors qu'il en faut 31 pour remplir, pas le gazoduc. On a beaucoup compté sur le gisement de Shah Deniz, qui est un grand gisement, azerbaïdjanais, qui est relativement nouveau. On lui a attribué des réserves très importantes, et elles sont très importantes, mais même si sa capacité est doublée, eh bien, ça ne suffira pas, et largement. Il faudrait pour cela du gaz du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et un peu du Kazakhstan pour alimenter, mais pour cela, il faut passer à travers la Caspienne. Or, les Russes s'opposent à la construction d'un gazoduc, de cette nature dans la Caspienne, puisque la Caspienne n'étant pas une mer libre, il faut que tous les riverains soient d'accord. Et comme il y en a 5, il suffit du veto d'un seul pour qu'on ne le fasse pas. Or, les Russes non seulement achètent le gaz du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, mais ils viennent de faire un accord avec les Azerbaïdjanais pour acheter une partie de la production du gisement de Shah Deniz, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Tout cela me mène à penser que le projet de Nabucco restera très vraisemblablement à l'état de projet. Bien. Alors, ces deux exemples vous ont donné un échantillon de ce que peuvent être les difficultés d'ordre stratégique et économique que représente l'énergie dans le monde, surtout quand la consommation est entre les mains de quelques pays, de quelques puissances industrielles principales. Mais il ne faut pas oublier non plus que la production de pétrole, elle, elle est surtout entre les mains des pays producteurs du Moyen-Orient, dont les réserves représentent les deux tiers des réserves mondiales. Or, pour prendre le seul exemple de l'Europe occidentale, aujourd'hui, l'Europe occidentale est alimentée à raison de, entre, de 26% à peu près de pétrole du Moyen-Orient. Pour l'Allemagne, c'est beaucoup moins. C'est 6% seulement. Car les Allemands s'alimentent surtout en pétrole et en gaz russe. Il faut le noter, le souligner, c'est très important. Car les Allemands sont européens, mais ils sont également et surtout allemands lorsqu'ils font leurs affaires avec les Russes. Bon, ceci est une petite parenthèse. Hein. Bien. Alors que va-t-il se passer en Europe ? C'est que l'Europe importe 17% de sa production de pétrole de la mer du Nord. Or, les champs britanniques sont en déclin, dans quelques années, il n'y en aura plus. Et les champs norvégiens également, quoiqu'à plus longue échéance, mettons 2020, enfin par là. Par conséquent, ces 17%, il va falloir les remplacer par quelque chose. Ça représente 1 million de barils jour. Or, les Russes, qui exportent 5 millions de tonnes de pétrole par an, ne seront plus en mesure d'en exporter plus, car ils ont aussi leurs besoins propres, et ils n'ont que les 8e réserves du monde en matière de pétrole, s'ils ont, et de beaucoup, les premières en matière de gaz naturel, puisqu'ils ont le tiers des réserves mondiales de gaz naturel. Bien. Par conséquent, vers quel pays vont se tourner les pays occidentaux européens, les plus grands acheteurs de pétrole, lorsqu'il n'y aura plus de gaz de la mer du Nord? L'Afrique ne pourra pas suffire à combler la demande, et par conséquent, c'est le Moyen-Orient qui sera appelé à la fournir, à fournir cette différence. Ce qui fait que, eh bien, les pays européens vont être de plus en plus dépendants du Moyen-Orient. Alors qu'à l'heure actuelle, il n'est mot dans la presse énergétique que de parler de la dépendance à l'égard de la Russie, il faudrait surtout parler de la dépendance de demain à l'égard du Moyen-Orient, qui est une des régions les plus fragiles du monde, et donc un avenir n'est pas fort incertain. Et comme le disait pas très récemment un rapport de l'Agence internationale pour l'énergie, ce qui est en cause dans le monde entier, c'est la sécurité des approvisionnements. Le problème est posé, il n'est pas encore résolu, pas plus que les problèmes stratégiques, ni le problème énergétique d'une manière générale, ni la plupart des grands problèmes politiques non plus. Voilà. Merci beaucoup.